9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et il a commencé à l'âge de 14 ans avec les mobilettes. Et aujourd'hui, il collectionne les motos. Le docteur Alouche est là. Comment ça va, docteur Alouche?
Je ne dirai plus rien à Philippe Robichon à chaque fois.
Mais ça, je me suis permis parce que celle-là, elle était bien.
Elle était bien, mais c'est vrai en plus.
Mais vous avez commencé à 14 ans avec des mobilettes.
Ah oui, c'est vrai.
C'était quoi, une 103?
Ah non, pas du tout. C'était un Ciao de chez Piaggio. Voilà.
Magnifique.
Magnifique. Et il était vraiment.
C'était un petit scooter.
Non, pas du tout. C'était vraiment une petite mobilette. Et. J'ai eu un caddie aussi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Mobilette caddie.
Oui, mais c'était vraiment des trucs, mais bon, c'est la jeunesse, c'était génial. On se déplaçait, on voyait les copains, les copines, c'était génial.
Bien, et maintenant vous avez une collection de motos.
Maintenant j'ai une petite collection très, très modeste, mais j'adore, parce qu'en fait, je pense qu'on collectionne les objets qu'on n'a pas pu avoir, parce qu'on n'avait pas les moyens, je ne suis pas à plaindre, hein. Mais souvent on collectionne plus tard les objets qui nous ont fait rêver, c'est un peu ça pour moi. Donc c'est Ducati, Norton, BSA, tout ça.
Voilà. Voilà. Et je vous dis ça parce qu'à chaque fois, le docteur Alouche vient avec une de ses motos. Voilà,
de ses monuments.
Attends, c'était la Yamaha, je pensais à un scooter Yamaha qui s'appelait Chappie peut-être.
Oui, Chappie, oui. Chappie, c'était un petit...
Qui était magnifique.
Qui était un peu comme le Honda Dax, pour ceux qui connaissent.
Ouais. Voilà. Bien. Bon. Je rappelle que vous êtes docteur Alouche, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, que vous avez écrit plusieurs livres, mais votre dernier best-seller, c'est la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger, grâce au foie chez Albin Michel. Alors le foie, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'émissions sur le foie,
et
on va parler d'un organe vital et pourtant méconnu, le pancréas.
Ah oui, alors le pancréas, alors il est vital et méconnu. Vital parce qu'il fabrique à la fois des hormones, mais aussi des substances, des enzymes pour pouvoir digérer. Et il est méconnu parce qu'il est très profond. En fait, c'est un des organes les plus profonds de l'organisme. Pour le situer, il est à gauche sur vous, sur votre organisme, à gauche, profond, derrière l'estomac. Voilà, derrière l'estomac. Et d'ailleurs, anatomiquement, on dirait une espèce de masse de gras, un peu. Et d'ailleurs, le nom pancréas vient du grec « chair ». La chair, C-H-A-I-R. En fait, on a découvert très tardivement que le pancréas avait une mission. Avant, on pensait que c'était quelque chose qui portait l'estomac, qui faisait une espèce d'amortisseur. Et en fait, le pancréas, c'est un organe qui est absolument indispensable, qui, lorsqu'on le fœtus se fabrique, grandit, en fait, il se fait à partir des mêmes tissus que le tube digestif, que le foie. En fait, on ne peut pas parler de tube digestif sans parler du couple foie-pancréas-intestin. Tout ça, c'est un tout. Parce que si vous n'avez pas de pancréas, très difficile de vivre en bonne santé.
Même si on peut vivre aujourd'hui sans pancréas, il y a des expériences.
Bien sûr, on peut vivre parce qu'il y a en gros deux fonctions. Alors, je suis désolé, parfois c'est un peu technique. Vous avez la fonction exocrine. Exocrine, crine, ça veut dire que on va déverser les produits dans un tube qui va aller dans le tube digestif. Donc, il fabrique des protéases, des lipases, des amylases. Alors, ça apparaît compliqué. Ase, ça veut dire enzyme, ça veut dire qui coupe. D'accord ? Amylase, amidon, l'ase, c'est fait donc pour absorber les sucres. Pour couper les sucres, c'est l'amylase. Lipase, c'est lipide, ase, couper les lipides. Voilà. Protéase, c'est pour les protéines, n'est-ce pas ?
Donc il y en a trois en fait ?
Il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Il y a aussi des ribonucléases, des désoxyribonucléases, enfin c'est. Voilà. Donc, il y a le peptide Y, enfin, il y a plein de choses qui lui est endocrine. Et donc, ça, c'est la première fonction. Donc, vous avez un espèce, si vous prenez la forme, c'est un espèce comment on pourrait dire ça, de béret, un peu, de béret basque, un peu épaissi sur la fin. Et puis, il y a un canal qu'il traverse et qui va se déverser dans le duodénum. C'est là où il déverse toutes ses sécrétions pour pouvoir digérer. Voilà.
Et la taille du pancréas ?
Oh, la taille, foie, disons, il pèse à peu près 150 grammes, voilà.
Ouais, petit.
Voilà, il doit faire à peu près 12 cm sur 6 cm, 8 cm, c'est pas un organe très... en fait, il a pas bénéficié, c'est pas un bel organe comme le foie, il est digne, il est là, c'est le général, c'est le patron, voilà. Lui, le pancréas, c'est un organe extrêmement complexe, et donc il a cette fonction exocrine pour digérer. Et il a une fonction endocrine. Alors, je explique. Crine, c'est faire des hormones. Endo, c'est-à-dire que ça ne se déverse pas comme exo dans le tube digestif, dans un tuyau. Ça se déverse en dos, dans le sang. Voilà. Donc, d'un côté, il exècre ce qu'il fait, il le lâche dans le tube digestif. De l'autre côté, il le lâche dans les artères pour pouvoir envoyer des hormones. Et quelle est l'hormone qu'on connaît tous pour le pancréas, mais ce n'est pas seulement cette hormone qu'il fabrique, c'est la fameuse insuline. L'insuline qui, je vous le rappelle, a deux fonctions. Celle de faire entrer le sucre dans les cellules avec sa petite clé. Et la deuxième fonction, c'est de stocker le sucre en excédent dans les cellules spécialisées qui sont les adipocytes.
Et on connaît tellement bien l'insuline que je pensais que le pancréas ne sécrétait que de l'insuline.
Ah, pas du tout. Alors, les cellules bêta des îlots de Langerhans. Monsieur Langerhans, c'est lui qui a trouvé ces îlots. Voilà. Donc, ça s'appelle les cellules bêta, c'est celles qui font l'insuline, excusez-moi. Et puis, vous avez les cellules alpha qui font le glucagon. Alors, le glucagon, c'est l'inverse de l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, elle fait rentrer le sucre dans les cellules, donc elle abaisse la glycémie, puisque je rappelle hein, quand même, parce que comme ça on va comprendre. Glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Si on n'a pas de sucre dans le sang minimum, on tombe en coma et on peut pas. Donc l'organisme et le foie régulent la glycémie, c'est-à-dire qu'il envoie du sucre quand on en a besoin. La glycémie à jeun normale, c'est-à-dire glucose émis sans normal, c'est compris entre 0,75 g par litre et 1,05 g par litre. Voilà. Au-dessus, c'est autre chose. On en a parlé suffisamment à cette antenne. D'accord ? Donc, ça, c'est l'insuline qui donc va permettre de faire rentrer, quand elle fait rentrer le sucre. Donc, j'avale du sucre. L'insuline est sécrétée. Le sucre qui était dans le sang va aller dans les cellules. Donc, la glycémie va diminuer. C'est clair ?
Ça lui évite de circuler librement dans le sang.
Voilà, exactement. Et donc, ça régule la glycémie. Le glucagon, c'est exactement l'inverse. Quand on libère du glucagon, eh bien, on libère du sucre. On fait sortir le sucre, et particulièrement du foie. Le foie va libérer du sucre.
Voilà. Mais c'est le pancréas qui...
C'est le pancréas qui fait le glucagon. Donc, pour résumer, hein, puisque c'est notre première émission
sur le pancréas.
Oui. Le pancréas, cellules, des îlots, des petits îlots qui sont exocrines, c'est alpha... C'est le glucagon qui fait sortir le sucre, qui met du sucre dans le sang. Et l'insuline, cellule bêta, qui fait rentrer le sucre dans les cellules et qui diminue dans le sang. Voilà. Et puis, il y a d'autres cellules. Après les bêta, vous avez les gamma et ainsi de suite. Vous avez la somatostatine, parce que dans l'organisme et le pancréas, ils fabriquent une hormone qui annule toutes les autres hormones. Toutes. Somatostatine, ça arrête.
Là
Somatostatine.
Somatostatine. Voilà. Statine comme les statines.
Comme les statines. D'accord. Elle arrête stat, ça veut dire qu'elle arrête. Donc voilà. Et donc, le pancréas, et puis il fait aussi un autre peptide qui s'appelle peptide Y, qu'on connaît assez mal. Mais alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que cette hormone fondamentale qui est fabriquée par les cellules bêta des îlots de Langerhans, hein, je suis désolé, c'est compliqué, mais on va essayer à chaque fois de familiariser nos auditeurs avec ça, eh bien, il n'y en a pas beaucoup dans le pancréas. En fait, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'il y en a très peu, 5%. Donc c'est très très peu. C'est pour ça que l'atteinte du pancréas, quand elle peut parfois tomber sur les îlots. Et comme il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de système de compensation, et ben à ce moment-là, on n'a plus d'insuline, on n'a pas assez. Il faut savoir que tous les îlots de Langerhans de votre organisme, ils fabriquent à peu près entre 40 et 55 unités d'insuline par jour. Vous voyez ? Donc pour les diabétiques qui nous écoutent, quand ils ont diabétiques de type 2, par exemple, qui sont à l'insuline, s'ils dépassent pratiquement et s'ils sont beaucoup plus que 50-60, c'est qu'ils dépassent les besoins d'insuline normale de l'organisme. Ça veut dire probablement qu'ils sont en surpoids ou qu'ils sont en obésité ou qu'ils ont un vrai problème de résistance à l'insuline par le fait qu'ils ne font aucun exercice.
Alors vous nous avez déjà dit, docteur Alouche, que le foie ne faisait jamais mal. Est-ce que le pancréas est un organe ? Alors, je ne sais pas si c'est un organe ou si
c'est un organe, c'est une glande. Hein.
C'est une glande, d'accord.
C'est une glande. C'est une glande qui est passionnante parce que, en fait, comment dire, le pancréas et particulièrement ces îlots de Langerhans, là, c'est comme si c'était le mélange d'un hépatocyte, d'une cellule du foie et un neurone. Parce qu'en fait, quand elle fait de l'insuline, la cellule, donc elle travaille, elle a tout un cycle pour préparer la pro-insuline qui va devenir l'insuline, mais pour la libérer, il faut qu'on dépolarise sa membrane. Il faut qu'il y ait un influx électrique, comme dans les neurones. Merveilleux, non ? Donc en fait, le pancréas, c'est extrêmement complexe, et donc ça ça fait que c'est vraiment imaginer un foie avec un cerveau.
D'accord.
Dans les fonctions de base. Et c'est ça le
c'est ça la différence.
Vous voyez, comme, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il y a si peu d'îlots de Langerhans. Pourquoi il y a si peu de sécrétions. Parce que c'est difficile. C'est des cellules extrêmement compliquées, extrêmement différenciées.
Mais on le sent alors ? Est-ce qu'il fait mal ? Est-ce que quand il est malade, il est douloureux ?
Alors, c'est surtout la fonction exocrine, là où il y a les tubes qui sont douloureux. Par exemple, c'est vous savez, il y a les grandes maladies du pancréas, c'est d'abord la pancréatite. La pancréatite, c'est une maladie qui est liée au fait de boire trop d'alcool, de manger très gras, d'avoir parfois des problèmes de vésicule où il y a des petits calculs qui vont aller dans le gros tuyau là, qui emmène toutes les protéases, lipases, qui te bouchent. Et alors là, c'est une douleur, c'est l'équivalent d'un coup de poignard dans le ventre, en douleur.
Voilà. D'ailleurs, les gens qui en souffrent vous le disent. Hein.
Ah bah,
c'est comme une décharge électrique.
Ah oui, mais c'est incroyable. Hein. Donc en fait, ça c'est la première pathologie, pancréatite soit aiguë. Faire attention parce qu'une pancréatite aiguë, ça peut tuer quand même. Hein. Alexandre le Grand, que tout le monde connaît, il est mort très jeune, vers 30 ans je crois, d'une pancréatite aiguë. Ah, il a fêté une victoire la veille et le lendemain, il a eu une pancréatite aiguë, il en est mort, quelques jours après. Voilà. Donc au fait de sa gloire quand même. Hein,
fait
de sa gloire, comme quoi.
À 30 ans, mais à l'époque on mourait jeune.
Ah oui, mais on mourait jeune quand on n'avait pas beaucoup de moyens. Quand on avait des moyens, on vivait aussi vieux. Vous savez, les vieux sénateurs romains, ils vivaient très très vieux. Hein. Donc les vieux grecs, les vieux philosophes grecs, ils vivaient extrêmement vieux. Hein.
Alors on verra tout à l'heure, hein, docteur Alouche, les autres maladies du pancréas, puisque c'est notre première émission
sur cet organe.
À votre santé, à votre pancréas ce matin.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons du pancréas ce matin avec le docteur Réginald Alouche. Moi, j'ai dit pancréas, on prononce
pancréas.
Il n'y a pas de...
Non, non, il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle.
Non.
On va continuer à voir les maladies du pancréas ce matin, mais docteur Alouche, on connaît de plus en plus, parce que c'est une maladie qui est médiatisée, la stéatose hépatique non alcoolique, mais il y a une stéatose qui concerne le pancréas.
Alors ça, c'est une notion qui est assez nouvelle. Il commence à y avoir de plus en plus de publications dans ce domaine, c'est qu'on sait aujourd'hui que quand un foie est gras, eh bien, il y a un risque certain que le pancréas soit gras. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a très peu d'îlots de Langerhans, on en a très très peu. Et à ce moment-là, si ces petits îlots deviennent gras, eh bien, ça va gêner complètement la sécrétion d'insuline. Mmh. Et donc, ce foie gras... Et ce pancréas gras vont contribuer provoquer un prédiabète puis un diabète. Donc c'est là où, au fond, c'est assez peu connu. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu d'examens pour comprendre, pour savoir s'il est gras ou pas.
Là, vous apprenez à tous ceux qui nous écoutent ce matin qu'on peut avoir un pancréas gras.
Oui, un pancréas gras et que comme...
Jamais entendu parler. Hein.
Comme il y a très peu d'îlots de Langerhans, si le gras est là... Eh ben à ce moment-là, vous avez une sécrétion d'insuline qui va être gênée et qui va aggraver le diabète.
Mmh. Voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça, docteur Alouche ?
Là, c'est un peu.
Il faut déposer.
Il faut déposer. En fait, on dit pour le foie, on appelle ça la NASH, la non-alcoolique stéatose hépatique. D'accord ? Parce que la stéatose classiquement du foie, avant c'était l'alcool. Maintenant, c'est plus l'alcool, c'est le sucre et le manque d'activité physique. Ce que je propose, moi, comme nom, c'est la NASP, la non-alcoolique stéatose pancréatique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une NASH seule, une NASH plus une NASP. Et que je pense que c'est un des domaines qui va être exploré dans les 10 années à venir. Parce que cet organe qui est extrêmement profond, il a absolument besoin d'être exploré. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup, on a pratiquement rien pour l'explorer. Alors, on peut toujours faire des scanners.
C'est vrai que pour le foie, vous avez un fibroscan.
Il y a
un
fibroscan pour faire voir la fibrose hépatique qui vient, qui succède ou qui accompagne la stéatose hépatique. Mais pour le pancréas, on n'a rien. Voilà.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui d'appareil qui permettrait d'explorer le pancréas.
Non.
Pourquoi ?
On peut faire un scanner du pancréas. Mais en fait, parce que c'est un organe très profond. Donc on est parasité, parce que vous, quand on met une sonde sur, sur votre abdomen, eh ben, il va y avoir plusieurs organes que vous devez traverser. Donc c'est très difficile d'aller... Le foie, on y a accès, juste sous, le grille costal. L'estomac, on peut le prendre par fibroscopie. Le côlon, on peut faire la coloscopie. L'utérus, l'utéroscopie. Enfin, je veux dire, mais le pancréas, malheureusement, on ne peut pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les cancers du pancréas sont détectés très tard. C'est trop tard. Même. Donc, parce que c'est un pancréas qui est c'est un cancer qui est très agressif.
Comment on fait un bilan pancréatique aujourd'hui ?
Ah ben, on fait des prises de sang.
D'accord.
Alors, dans ces prises de sang, on va mesurer par exemple les lipases pour savoir si la fonction, maintenant vous savez ce que c'est, exocrine pour la digestion fonctionne bien. On va mesurer le taux d'insuline. Si on a un doute d'ailleurs, pour savoir s'il fait de l'insuline efficace ou pas, on peut faire ce qu'on appelle le peptide C. C'est un peptide qui est fait en même temps que l'insuline. Et le fait de le mesurer, ça permet de savoir si vous avez par exemple des gens qui font peu d'insuline, mais ils font beaucoup de peptide C. Donc ça permet de comprendre pourquoi et ainsi de suite. Donc il y a peut-être un dysfonctionnement. Et puis il faut savoir aussi que le pancréas, il est un peu plastique. C'est-à-dire que on sait par exemple que quand on est enceinte, il faut plus d'insuline. Quand on est stressé, il faut plus d'insuline. Donc le pancréas qui est piloté par l'hypothalamus, il est piloté par l'hypothalamus.
Le montrez à la radio, c'est dans le cou.
C'est à la base du crâne, dans ce qu'on appelle le tronc cérébral, c'est la partie archaïque du cerveau, partie sur laquelle vous n'avez pas de contrôle quasiment aucun. D'accord ? Et cette partie qui est très archaïque, c'est elle qui pilote le pancréas par l'intermédiaire d'un nerf qu'on appelle le nerf vague, qu'on connaît très mal aussi. On ne connaît pas, par exemple, les influx. On peut les regarder, mais on ne sait pas. Le nerf vague, c'est un nerf qui va de l'anus au cerveau et qui remonte toutes les informations qui vont de l'anus à la gorge.
Voilà. De mémoire, vous nous avez dit un jour que c'était l'autoroute.
C'est une autoroute dans les deux sens, mais on est incapable de dire « Ah ben ça, c'est un signal qui vient du côlon. Ça, c'est un signal qui vient du pancréas. Ça, c'est un signal qui vient de l'estomac. » Personne ne sait. Voilà. C'est ça qui est merveilleux. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup à défricher. Hein. Parce que imaginez qu'on puisse se brancher sur le nerf vague. Vous savez, comme la valise dans les autos, là, quand on fait la révision.
Aujourd'hui, oui.
Voilà. Ouais. Vous branchez sur le nerf vague, et le nerf vague vous dit, le pancréas ne va pas, ou le foie ne va pas, ou l'intestin ne va pas. Ce serait absolument génial. Mais c'est ce qu'on appelle l'étude des potentiels évoqués, c'est-à-dire que vous avez des ondes dans les nerfs, des ondes électriques, et bien, si on était capable de faire la discrimination, et ça, je pense que ça vaudrait un Nobel à quelqu'un. Ça vaudra, c'est sûr. Parce que le nerf vague, c'est un vrai, vrai, vrai casse-tête. En fait, on ne sait pas. Voilà. Et là, on aurait un indicateur, vous vous rendez compte, une grande partie de l'organisme. Voilà.
Quand on parle de pancréas gras, docteur oui. Alouche, est-ce que ce sont des lipides qu'il y a dans le pancréas ? Quelle forme de gras ?
C'est simple, c'est exactement comme dans le foie. Qu'est-ce que fait le foie ? Quand il doit stocker des choses et qu'il a plus de place, il fait des triglycérides. Que ce soit pour les graisses, c'est plus facile, mais pour le sucre, il transforme les sucres en triglycérides. Glycéride avec une racine glycérol et puis il stocke sous cette forme. En fait, tout que ce soit sucre ou gras, c'est stocké sous forme de gras.
De gras. C'est ça qu'il faut retenir.
Pour beaucoup de gens, le sucre, non, il y a une petite réserve de sucre que le foie garde pour le cerveau, pour pas que vous tombiez dans les pommes, mais en dehors de ça, tout le reste, c'est stocké sous forme de gras.
Alors, quelle est l'incidence du pancréas gras, finalement ?
Alors aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus que ça.
Est-ce que c'est une incidence sur le diabète, sur l'insulinodépendance ?
Un organe qui devient gras, c'est un organe qui fonctionne plus mal. Hein. Vous avez une entreprise où vous avez un atelier avec des machines-outils, et puis vous avez au milieu, entre les machines-outils, vous avez des sacs, des caisses qui traînent et des machins. Bah, à chaque fois qu'il faut aller chercher les pièces usinées et la machine-outils, eh bien, faut faire le tour, faut pousser les caisses, faut machin. Vous avez un rendement, je ne sais pas si l'image est belle, mais enfin, moi, elle dit quelque chose. C'est le problème, par exemple, si dans votre usine, vous avez un tout petit stock et vous ne pouvez pas vous agrandir parce qu'à côté, il y a un supermarché, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez une grosse commande et que vous n'avez rien, vous allez stocker où ? dans l'usine. Et quand vous stockez dans l'usine, vous allez gêner le travail. Les gens vont être un peu irrités. Le fraiseur, il peut pas fraiser convenablement parce qu'il a des trucs qui le gênent et tout ça, et il peut pas travailler. Donc c'est pareil avec les organes. C'est la même chose. C'est que un organe qui est chargé en gras, que ce soit le foie, le pancréas, le cœur, qui peut être farci par du gras, eh ben, il ne fonctionne pas de la même façon. Ça paraît évident. Et il n'y a pas 36 solutions pour ça. Il faut enlever cette graisse. Comment j'enlève la graisse? Eh bien, un, j'améliore ma façon de s'alimenter, de m'alimenter. Je ne dis pas, parce que les régimes aujourd'hui, on n'en sort plus. Et de toute façon, tout le monde est au régime aujourd'hui, hypercalorique. Tout le monde mange trop. Moi, ça me fait rire quand on dit « Ah, mais les régimes, ça sert à rien, mais mon grand, les régimes, on mange tous trop. » Donc, on est tous au régime. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est essayer d'être plus raisonnable et d'essayer de d'abord de faire ses courses, de faire sa cuisine. Je sais que ça paraît aujourd'hui, tout le monde commande et tout ça, mais il faut faire très, très attention. On est en train de jouer avec les allumettes parce que ça va se payer. Il y aura une facture. Il faut savoir. Vous savez, on l'a déjà dit ici, un vieil ami de mon père qui disait toujours, il était plutôt dans le commerce, il disait, toutes les affaires dont tu ne t'occupes pas finiront toujours par s'occuper de toi. Et ça, vraiment, c'est vrai tous les jours. Il y a des choses, on dit, oh mais non, je verrai plus tard, de toute façon, je vais bien, machin. Un jour, vous recevrez la facture. Et la facture, quand on est pour la santé, c'est jamais une facture facile à payer. Hein. Les autres, bon, on les paye, on trouve un moyen. Mais les factures de santé, ces factures qu'il ne faut pas payer. Donc, qu'il ne faut pas payer. Qu'on ne peut pas
payer. Qu'on ne peut pas payer. Mais alors, parlons de ce pancréas à dégraisser. Donc, oui. Il faut faire attention, cuisiner
alors,
soi-même.
Alors, à dégraisser. C'est une excellente question, Philippe. Pourquoi? Parce qu'on sait, par exemple, que pour le foie, quand on augmente le débit cardiaque, c'est-à-dire quand on fait du cardio, on bouge, c'est tout le problème des patients qui disent « Mais je marche, docteur ». Malheureusement, pour le foie et le dégraisser, il faut pas que marcher, il faut faire du cardio. Voilà. Donc, il faut parce que quand le débit cardiaque
alors du cardio pour tout le monde parce que c'est vrai que on utilise toujours cette expression en imaginant que tout le monde sait ce que c'est que le cardio.
C'est mouiller la chemise.
C'est cardio training.
C'est mouiller la chemise. C'est pas de moi. C'est d'un illustre médecin que je lui ai repris. Mais mouiller la chemise. Voilà. Donc mouiller la chemise, c'est être un peu essoufflé, c'est machin. Faut pas non plus ce qu'il faut dans l'exercice physique, c'est qu'il soit régulier. Faut pas se dégoûter. Faut pas se faire mal. Si on se fait mal, on s'arrête pendant 2 mois, donc on perd l'avantage. Et si on se dégoûte, on ne fait plus, puis on n'a plus envie. Voilà. Donc il faut, c'est une stratégie. Hein, c'est une stratégie. Vous savez très bien qu'après 40 ans, l'exercice physique, ça devient un médicament. D'accord ? On a fait une émission sur la séquestration splanchnique. On sait qu'après 60 ans, manger un peu plus de protéines, c'est nécessaire. On l'a expliqué dans cette vidéo. Et c'est marrant parce que le terme est affreux, séquestration splanchnique. Mais en fait, et tout le monde l'a retenu. Parce qu'en fait, ils se disent...
Écoutez, on a la séquestration et les îlots.
Et les îlots. Maintenant, c'est les îlots de Langerhans. Monsieur Langerhans. Vous vous rendez compte la notoriété de ce type?
Voilà. Ouais.
Ça, je suis jaloux. Vous vous rendez compte? Quoi qu'il arrivera, quel que soit le futur de ce monde, de cette terre, les îlots de Langerhans resteront les îlots de Langerhans.
Alors, aujourd'hui, on a la NASP.
La NASP. Bon, voilà.
Donc, quand on parlera du docteur.
C'est monsieur Langerhans, quand même.
Oui, mais quand on parlera du docteur Alouche, on dira l'inventeur de la NASP. Qui a déposé le terme.
Mais là, je prends mes précautions vis-à-vis de mes confrères. C'est une idée qui m'est venue parce que, en fait, si le foie est gras et que le pancréas est gras, eh ben, il faut faire quelque chose. D'accord? Et la question qui se pose, c'est, on sait que pour le foie, faire de l'exercice, augmenter le débit cardiaque, faire du cardio training, ça marche pour le dégraisser. On ne sait pas si ce n'est pas la même chose pour le pancréas. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, il y a une chose pour le pancréas qui peut aider le pancréas, si on a un prédiabète ou un diabète, c'est d'améliorer la sensibilité à cette hormone qui est l'insuline du pancréas. Et pour ça, un muscle qu'on fait marcher, il devient plus sensible. Un muscle qui ne marche pas, il résiste à l'insuline. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il résiste à l'insuline? Le pancréas, il doit faire plus d'insuline jusqu'au moment où il est épuisé et il ne peut plus en faire, et ça c'est le diabète.
On parlera justement du diabète et du lien qu'il y a entre ce fameux pancréas gras et le diabète. On parle du pancréas jusqu'à 10h, ce Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et le docteur Réginald Delouche qui est notre invité avec nous aujourd'hui, qui est un petit peu le Franck Ferrand de la médecine.
Le Franck Ferrand,
oui. Pourquoi? Vous connaissez, vous êtes passionné d'histoire. L'historien, c'est pour ça, je dis.
Mais si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas imaginer le futur. Vous savez bien, ce n'est pas de moi non plus. Hein.
C'est vrai.
Mais
à Canossa.
Aller à Canossa. Ah, ça, c'est bien. Oui. Aller à Canossa, c'est une expression que j'aime bien. Vous savez, c'est le fameux Henri IV le Germanique en 1077 qui a été demandé pardon au pape pour une sombre histoire de nomination d'évêque. Et d'ailleurs, il s'est vengé après, Henri IV, puisqu'il a, il a fait démettre le pape qui était Clément. Non, Clément, c'est son successeur.
Lui, je suis pas bon en pape. Alors, je suis désolé. Non, je suis pas du tout bon en pape.
Voilà, mais cette expression, vous pouvez la sortir dans un dîner, c'est superbe.
À Canossa.
Allez à Canossa. Les gens.
Parfois, ça veut dire que je m'excuse, c'est ça?
Aller à Canossa, c'est, oui, c'est demander pardon.
C'est besoin de pardon.
Mais dans des conditions, robe de bure, avec sa femme et ses enfants, avoir traversé les Alpes. Vous voyez quoi, c'est pas aller je te demande pardon avec une tape sur le dos quoi.
On parle d'un organe mystérieux, mais un organe qui fait peur, parce qu'en général, quand on commence à parler et à s'intéresser à son pancréas, c'est que ça va pas fort. Et souvent, les pronostics pour les personnes qui ont des maladies qui touchent le pancréas sont pas toujours très optimistes, même si elles sont prises à temps. On voit des cas de personnes qui sont.
Tout à fait. Aujourd'hui, et puis la médecine fait d'énormes progrès. Donc, rapidement, les maladies du pancréas. La première, c'est la pancréatite, qu'elle soit aiguë et qui est dangereuse, parce que dans 50% des cas, ça peut très mal se terminer.
Donc, elle est symptomatique. Hein.
Ah oui, c'est coup de poignard dans le ventre. Hein, voilà. Deuxième, c'est la pancréatite qui devient chronique. D'accord. Et ça, bon, bah, on en souffre. Il faut compenser ça en prenant des médicaments pour assurer la digestion. Et puis, il y a le fameux cancer du pancréas qui est en augmentation, en très grosse augmentation. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les facteurs qui favorisent le cancer du pancréas, qui sont attachés épidémiologiquement au pancréas, c'est l'alcool, mais c'est aussi l'obésité, c'est aussi le tabac, à partir de 15 cigarettes jour, hein, quand même, il faut le dire. Hein. L'alcool, il faut en boire quand même, hein, je dis. Hein, voilà. Et puis maintenant, il y a la pollution. Il y a par exemple la province du Kerala, en Inde. Quand elle est passée d'une électricité carbonée avec charbon lourd, et quand elle est passée au décarboné électrique, les cancers du pancréas ont diminué de moitié, je crois. Ah oui, c'est incroyable.
Donc c'est l'épigénétique dont on parle aujourd'hui.
C'est peut-être l'épigénétique, mais c'est aussi qu'il y a des facteurs extrinsèques qui fait que quand vous inhalez des molécules qui sont pas des molécules que vous avez qui sont tolérées par votre organisme, eh bien après ça va aller dans les artères et ça peut aller dans des organes et provoquer des problèmes. Il y a un dernier facteur qui est à mon avis péjoratif, mais ça on a très très peu de données là-dessus, sont les perturbateurs endocriniens. Je rappelle que le pancréas c'est une glande endocrine, donc c'est un perturbateur endocrinien, ça va perturber cet organe du pancréas. Et vous savez qu'aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, il y en a absolument partout, que ce soit les pesticides ou les produits, les additifs, certains additifs alimentaires, ou les plastiques, ou les retardateurs de feu, ou les choses qu'on met dans les meubles. Vous savez que
non.
Les canapés, les meubles, il y a une vingtaine d'années des vrais problèmes. Les Californiens ont été très en avance parce que pour éviter qu'ils prennent feu, parce qu'il y avait une législation, parce qu'on s'apercevait qu'il suffisait d'une cigarette, et puis à ce moment-là, il prenait feu. On a ce qu'on a appelé des retardateurs de feu, qui donc les canapés étaient livrés, les meubles étaient livrés avec ça.
C'est quoi, c'est des revêtements?
C'est des revêtements, c'est en fait des sprays chimiques pour éviter que ça prenne feu spontanément, parce que ça prend feu très vite, hein, parce que c'est des matériaux qui sont plutôt des matériaux issus du plastique. Et en fait, ces éléments-là sont extrêmement toxiques et sont des vrais perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, maintenant, il y a une réglementation qui interdit d'en déposer. Mais c'est ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est très compliqué, on est dans un monde moderne. Et dans ce monde moderne, eh ben, il faut essayer de comprendre pourquoi quelqu'un, alors qu'il n'avait pas de facteur de risque, un cancer du pancréas. Hein. C'est un peu...
En tout cas, ce qui vous alerte, c'est l'augmentation des cancers du pancréas.
Oui,
ça vous interroge.
Une véritable augmentation, surtout chez les personnes de plus de 70 ans maintenant. Ça déclare à plus de 70 ans souvent. Donc, voilà, il faut avoir ça. Et c'est pour ça que faire attention à notre environnement, sans devenir des fous de ça, mais faire attention à notre environnement, c'est important. Dans quoi je vis? Où sont mes produits de nettoyage à la cuisine? Est-ce qu'ils sont proches de mes repas? Vous savez, souvent, on met les produits de nettoyage sous l'évier, c'est près à côté dans le
du garde-manger.
Du garde-manger. Et comme il y a des émanations, ces émanations peuvent aller dans le garde-manger. C'est des bêtises, tout ça. Mais il faut avoir une vraie réflexion là-dessus. Il faut les mettre en hauteur pour éviter que les enfants ne puissent les inhaler ou les toucher. Mmh. Ou les machins. C'est parce qu'un enfant, c'est quoi? C'est un organe en croissance exponentielle. Son cerveau, s'il y a des perturbateurs, ben, ces perturbateurs, ils vont... Vous voyez, enfin, bon, je ne veux pas affoler les gens, je ne suis pas là pour ça, moi. Mais je dis qu'à travers l'explosion des cas de cancer du pancréas, il y a vraiment des questions à se poser sur notre mode de vie et aussi les produits qui sont... Ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être anodin. Ça peut pas être... Il y a quelque chose. Voilà, il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve.
Comment relancer, docteur Alouche, un pancréas qui est paresseux, qui ne voilà, qui produit plus d'insuline? Est-ce qu'il y a une façon de relancer ou une fois que le pancréas ne produit plus d'insuline, c'est mort?
Alors, si vous avez un pancréas qui est paresseux et qui ne fait plus, par exemple, les fameuses enzymes, les lipases, protéases, vous pouvez prendre des compléments qui, par la bouche, qui vont compenser cette insuffisance. Pour le pancréas, exocrine. Hein,
vous parlez de compléments alimentaires?
Alimentaires, oui, c'est des médicaments qui sont prescrits. Et vous prenez ces médicaments, prenez ces médicaments, et à ce moment-là, ça va compenser l'insuffisance exocrine, hein, c'est-à-dire ce qui va dans le tuyau, là, dans le tube digestif directement, du pancréas. Pour le pancréas endocrine, qui fait principalement l'insuline, mais aussi les glucagons, eh bien, à ce moment-là, si on a... C'est intéressant votre façon de présenter, parce que quand vous dites un pancréas paresseux, on pourrait se dire, oui, il dit, non, c'est pas ça. Le pancréas n'est pas paresseux. Ce qui lui arrive, c'est qu'on lui en demande trop. Que ce soit un diabète de type 1 ou de type 2, c'est une insuffisance d'insuline. Donc, ça peut être insuffisant pour une raison simple, c'est que vous avez détruit votre pancréas, c'est le diabète de type 1, maladie auto-immune qui touche 10% des diabétiques. Mais pour les 90% qui restent, c'est que tout simplement, peut-être vous avez grossi, et qu'à ce moment-là, ben, votre pancréas qui faisait ses 50 unités, là, il doit en faire 70, il ne les fait pas. Donc, la balance n'est plus équilibrée. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, allez, il les fait les 70, vous lui avez demandé. Mais à force d'être sédentaire, de manger un peu gras, un peu sucré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les muscles, qui sont quand même un très très gros organe de notre organisme, eh bien, ils deviennent insulino-résistants. C'est-à-dire, quand l'insuline tape à la porte, il fait, non, je ne vais pas ouvrir. Et à ce moment-là, le pancréas va en faire de plus en plus, jusqu'au moment où il ne peut plus. Parce que lui, il faut quand même savoir, on ne l'a pas dit, mais il est sous la direction absolue du cerveau. Absolue. Le cerveau lui envoie l'hypothalamus, là, vous savez, cet organe dont on a parlé, qui est dans le cerveau archaïque, lui envoie des informations. Et vous allez comprendre, là, vous allez comprendre comment cette complexité, comme elle est belle, cette complexité. Vous mangez. Vous avez... l'alimentation qui va, le sucre que vous avez mangé qui va dans votre tube digestif, dans l'intestin. Tout le sang de l'intestin, il va dans le foie. Maintenant, je pense que tous nos auditeurs le savent. Par quelle veine? La veine
porte.
Porte, qui est la porte du foie. Eh bien, figurez-vous que dans la veine porte, il y a des capteurs, on en avait parlé, capteurs de glucose qui sont reliés au cerveau. Donc, quand ces capteurs disent au cerveau, il y a du sucre, à ce moment-là, le cerveau va dire au pancréas, fais de l'insuline. Et c'est très organisé dans les îlots. Le cerveau sait exactement, toi tu vas me faire 3 unités, toi tu vas m'en faire 10. C'est absolument magique hein, quand même. C'est absolument magique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, vous pouvez très bien comprendre que si les capteurs sur la veine porte diminuent en quantité, ne renseignent plus très bien le cerveau sur la quantité de sucre, eh bien il ne donnera pas les ordres pour faire suffisamment d'insuline. C'est le début. Avec le prédiabète et le diabète. Vous voyez, il faut jamais penser à un organe seul. Jamais dire, ah, c'est la faute de... Il faut avoir une vision globale de l'individu, ce qu'on appelle la vision holistique. Et il y a de plus en plus de médecins aujourd'hui qui ont cette approche. En tout cas,
Ce qu'on le tend,
parce que c'est vrai que c'est difficile. Voilà. Quand vous avez 10 minutes, hein, on demande beaucoup.
C'est compliqué d'avoir une vision holistique.
Il y a beaucoup de débats sur la médecine, mais enfin, bon, c'est pas le sujet, Bon, un individu, un être humain, c'est un tout. C'est un tout. Peut-être petite remarque, quand vous avez du stress, vous avez un parent qui est malade, machin, vous avez besoin de faire plus d'insuline. C'est incroyable. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et lui dire, ah ben, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Non, c'est un tout. Et pour ça, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir avoir un tout petit peu de temps pour écouter son patient.
Bon, vous mettrez vos commentaires sur la vidéo qu'on mettra sur la chaîne YouTube si vous avez des questions sur le pancréas, première émission sur le pancréas, mais c'est vrai que c'est un sujet encore très neuf que le pancréas, un mot que tout le monde connaît, mais une réalité oui. que personne ne connaît. Alors, en parlant de vidéos YouTube, oui. docteur Alouche, bravo, oui. hein, vous êtes rentré dans le club des millionnaires sur YouTube. Et moi,
fier.
Je pense que pour fêter ça, on devrait quand même manger un petit couscous au poisson. Avec le docteur Walid Mekedem, je le connais, ça pourrait lui faire plaisir.
Oui, mais c'est vrai, d'ailleurs on l'a fait.
Hein. Un petit couscous voilà. au poisson. Voilà. J'ai découvert le couscous au poisson.
Ah, le couscous au poisson, c'est le mardi, le parce que c'est le, début, c'est là où la pêche arrive, hein, parce que vous savez que dimanche et lundi, il n'y a pas de pêche. Donc dans les bons restaurants, on fait du couscous, on l'appelle aussi le couscous rouge parfois, et c'est vraiment absolument délicieux. Un couscous au poisson, au mérou. C'est un truc.
Oh, mais s'il y avait que du mérou.
C'est vraiment.
Par contre, ce que je trouve, c'est la taille des boulettes.
Oui.
Vous savez, moi, boulettes, je voyais, vous savez,
Attendez, vous m'avez invité pour parler du couscous.
Non, fais la fêle. Mais là, les boulettes du couscous au poisson, c'est des.
Ah ouais.
Elles sont triple XL.
Ah oui, triple XL, mais c'est bon, le couscous, c'est un. On pourrait faire un colloque de trois jours.
Non, mais le couscous au poisson, c'est une hérésie.
Mais c'est rarissime, c'est le couscous, c'est un ingrédient de base. Et en fait, il peut être travaillé de façon très fine, hein, très très élégante. Hein. C'est les gens disent le couscous. Non, le couscous c'est quelque chose de vraiment très important. Bon, pour moi, c'est très important. Donc,
surtout le couscous au poisson.
Couscous au poisson. Vous m'avez eu là. Franchement, il faut arrêter, Philippe. Non. Sinon, je vous dirai plus rien. Hein. En tout cas, on s'est régalé.
J'ai des doses. C'était magnifique. On va inviter le docteur Walid Mekedem.
Avec plaisir.
Pour venir faire une émission avec vous, qui s'est régalé aussi. Lui, tu es sceptique, sur le couscous au poisson.
Ben, il connaissait pas.
Non, il connaissait pas. Il m'a dit, le couscous au poisson, qu'est-ce que c'est ça?
Il connaissait pas. Et puis, c'est pas vous qui m'avez fait une réputation sur le mesfouf.
Oui. Maintenant, il faut se rattraper sur le couscous au poisson.
Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Je vous jure. Là, ça y est.
C'est bon.
Ah, là.
Couscous au poisson. C'est magnifique.
Magnifique. Il y a tout. Il y a la Méditerranée. Il y a tout dans le couscous au poisson. Vous avez le poisson, le mérou. Qui est un poisson méditerranéen.
Il n'y a pas que du mérou, il y a du mulet.
Il y a du mulet, il y a les épices, il y a les odeurs, il y a ce couscous qui a été fait tranquillement, qui est fin, qui est léger, qui est aérien, qui n'est pas le couscous. C'est génial. C'est du génie. Le couscous.
Moi, au début, je me disais, ils mettent que ça comme couscous. J'ai dit, mais on.
Vous n'avez pas fini.
On était blindés. Ils mettent que ça. Bon, docteur Alouche sur Beurre FM, vous réécouterez l'émission podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes aujourd'hui qui reprennent nos émissions et vos émissions,
oui,
docteur Alouche. Vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci.
Merci à vous
de nous avoir écouté. Très belle journée. Santé sur Beurre FM.
À bientôt.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.